tout le monde me regarde. Le paysage, l'odeur, les gens, tout ça me charme. Ma grand-mère me dit, Alpha, t'es le bienvenu chez toi. La fille du voisin aimerait se fiancer, faut financer. Jolie Mariam,
Mariam,
je te connais comme si t'étais ma terre natale.
Natal.
Ce soir, je suis invité à manger chez ma tata. À genoux autour d'un plat, c'est ça ma table. Aïe aïe aïe, bienvenue chez moi.
Sur le vol 91.5 à destination de Radio Pluriel au terminal 04 78 21 05 95.
Bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez vous présenter ?
Avec plaisir. Je m'appelle Moussa Mara. Je suis ancien Premier ministre du Mali, président d'un parti politique qui s'appelle le Changement Yélema, expert comptable de profession et de passage à Lyon dans le cadre d'une conférence à faire à Sciences Po. Le jeudi 3 novembre dans l'après-midi.
Ok. Pouvez-vous nous faire un état des lieux de la crise au nord du Mali ?
Aujourd'hui, l'opération Serval, plus la présence des Nations Unies, plus aussi la volonté des Maliens à sortir de la situation, a amené quand même un progrès. Les institutions ont été rétablies. Aujourd'hui, nous avons un pouvoir qui est légitimement élu, qui fonctionne. Toutes les institutions fonctionnent. On a de l'insécurité sur certaines parties du territoire de manière résiduelle. Il y a un accord de paix qui a été signé pour résoudre la crise, mais aussi refonder l'État afin que nous ne puissions pas retomber dans la crise à moyen terme. Les choses sont en train d'avancer doucement, c'est laborieux. Mais on est dans la bonne direction. Donc on peut penser que le Mali, avec le soutien de la communauté internationale, avec aussi la mobilisation des Maliens, de nos ressources internes, nous allons nous en sortir si tout va bien.
Vous vous adressez beaucoup à la jeunesse, notamment lors de la conférence que vous venez de faire avec la communauté malienne et dans vos livres. Selon vous, quels peuvent être les rôles de la jeunesse malienne, aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur, dans ce processus de paix?
Il faut savoir que notre pays est un pays jeune. La jeunesse constitue à peu près 75 à 80% de la population. Et les jeunes adultes, c'est-à-dire les jeunes majeurs de 18 à 35 ans, c'est à peu près 35 à 40% de la population. Je pense que les jeunes ont un rôle important à jouer. Le premier des rôles, c'est de ne pas céder à la tentation extrémiste. J'ai dit que les jeunes forment le gros des combattants, des terroristes, des rebelles, de tous ceux qui s'inscrivent dans une action violente contre l'État et contre la collectivité. Donc, que les jeunes, que nous, parents des jeunes, que les adultes, qu'on travaille tous ensemble à soustraire les jeunes de cette tentation. Le second élément, c'est la culture de la paix, de la non-violence, de la résolution pacifique des conflits, que ça puisse vraiment être la valeur dominante chez les jeunes, que ce soit les jeunes scolarisés et non scolarisés. Maintenant, particulièrement la jeunesse de la diaspora qui est plus éclairée, qui est plus formée, qui est plus compétente que la jeunesse au niveau local, elle a un rôle particulier à jouer. Les jeunes de la diaspora ne doivent pas oublier qu'ils sont influents, qu'ils ont des parents sur le terrain qui les écoutent. Donc il faut diffuser la bonne parole, il faut conscientiser, il faut sensibiliser, il faut amener les jeunes à être des acteurs, à être entreprenants, à ne pas subir la situation, à ne pas se complaire dans toujours rejeter les fautes, les difficultés sur les autres, se plaindre, mais aussi prendre sa destinée en main. Je pense que la jeunesse, la diaspora, en particulier la jeunesse estudiantine, celle qui est dans les universités, qui finit les universités, souvent qui fait des études brillantes, elle a aussi un rôle, je l'ai dit tout à l'heure à la rencontre avec la communauté malienne. C'est ensemble que nous allons nous en sortir. Donc il faut que chacun joue sa partition.
Quels résultats espérez-vous de vos différentes rencontres et conférences ici à Lyon?
De manière générale, de ma visite, parce que la rencontre à Sciences Po, c'est aussi une conférence sur la situation au Mali, la situation du Sahel. Et cette rencontre, c'est aussi parler du pays. Moi, je souhaiterais que la communauté malienne, les jeunes maliens soient un peu plus sensibles à ce qui se passe au pays et un peu plus conscient de leur responsabilité, de leur rôle. J'ai dit tout à l'heure, chacun peut faire quelque chose. Il ne s'agit pas de vouloir faire ce que les autorités doivent faire, mais chacun à son niveau doit pouvoir faire quelque chose. Donc si on arrive à sensibiliser la communauté malienne, les jeunes maliens sur cette question, mais aussi tous mes interlocuteurs à Sciences Po ou ailleurs, les cadres français, les universitaires français, les sensibiliser sur la cause malienne, c'est une crise complexe, qui a plusieurs relents, qui a plusieurs manifestations, qui a plusieurs racines. Je crois qu'on peut amener les uns et les autres à comprendre leur rôle et leur responsabilité. C'est une crise qui a besoin que le Mali s'engage. Le Mali est en train de le faire, les Maliens aussi, mais il faut que nos amis aussi nous accompagnent et nous aident. Et pour nous accompagner et nous aider, il faut qu'ils nous comprennent. Donc c'est dans le sens vraiment de cette compréhension que je suis aussi là.
Lorsque vous parlez de nos amis, pouvez-vous préciser de qui parlez-vous exactement?
Je parle de la communauté internationale de manière générale. Je parle de la France, qui a encore des soldats au Mali. Je parle de tous ceux qui sont membres du Conseil de sécurité, les membres permanents, les autres puissances importantes en Afrique, le Nigeria, d'autres pays, les pays voisins. Tous ensemble, l'Algérie, nous pouvons travailler à ce que les choses aillent mieux. Il y a aussi des pays comme le Maroc qui sont là, qui investissent dans notre pays, qui créent des emplois. Chacun doit jouer son rôle. Donc c'est toute cette communauté qui est encore là aujourd'hui en train d'aider le Mali, qui doit continuer à le faire. Et pour cela, il faut qu'il soit sensibilisé. Et c'est le sens donc de ma visite aussi ici.
Merci beaucoup.
Maki Pluriel.
Retour sur le plateau de Maki Pluriel. On vient à l'instant d'écouter l'ancien Premier ministre malien Moussa Mara qui répondait aux questions d'Aminata Koulibaly pour Maki Pluriel sur Radio Pluriel. Interview très intéressante, hein, des questions assez perspicaces, pertinentes on va dire. Moi j'ai retenu une question quand même, c'est sur la diaspora. Il a dit qu'en fait il faut pas rompre le cordon ombilical. La jeunesse de la diaspora est influente, il faut qu'elle le sache et ne doit pas oublier son origine. Ça t'a quand même un peu rassuré.
Oui.
Hein, toi qui es de la diaspora, qui es de la jeunesse, en réalité, il dit qu'il ne faut pas couper. Moi, enfin, qu'est-ce que t'en penses, toi, Aminata ? Parce que tu lui as posé la question, elle a répondu. Derrière, tu n'as pas rebondi parce que tu avais d'autres questions à poser. Mais là, qu'est-ce que tu penses de ce qu'il a dit à ce sujet-là ?
Je pense qu'effectivement, il y a pas mal, déjà, il y a effectivement pas mal de jeunes de la diaspora qui sont en train de retourner en Afrique. Mm-hmm. C'est qu'ils prouvent effectivement qu'ils ont un certain attachement quand même à l'Afrique. Que ce soit des attachements, on va dire, motivés stratégiquement ou qu'ils soient beaucoup moins stratégiques, que ce soit vraiment, on va dire, quelque chose de désintéressé, si on peut dire ça comme ça. Mais après, je pense que quoi qu'il en soit, il ne faut pas qu'on arrive à oublier d'où on vient.
Mmh.
Parce que, comme on dit déjà, c'est un arbre sans racine. C'est quoi déjà?
Non, je ne sais pas. Moi, je sais, si tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne sauras pas où tu vas.
Voilà, il y a ça. Et il y a l'autre aussi, mais ce n'est pas grave.
Alors, c'est le débat qu'on a eu un peu ici sur Maki Pluriel il y a un moment donné. C'est, est-ce qu'on sera des éternels oiseaux migrants, migrateurs? Éternels migrants, c'est-à-dire des personnes qui vivent en France, mais qui sont tellement attachés à leur pays d'origine que finalement, ils vivent pas bien en France. Quand ils vont au pays, ils sont immigrés. Et donc, du coup, ils sont les deux pieds entre les deux rives.
Moi, j'ai pas l'impression que, en tout cas, pas ma génération, j'ai pas l'impression que ma génération, la majorité soit comme ça. J'ai plutôt l'impression que la majorité de ma génération a su savoir que, en fait, elle détecte où se trouve son... comment on dit, là où se trouve son intérêt.
Elle sèche son linge où il y a le soleil, c'est ce qu'on dit. Mais en fait, en réalité, on vit 10 mois ici. Mmh. Au mieux, on va passer 2 mois de vacances au pays. Mmh. Est-ce que 10 c'est plus grand ou plus petit que 2?
Bah 10, forcément, c'est plus grand.
Donc les gens, moi j'ai toujours cette image qui m'a vraiment choqué. Et bon, on a Maki Pluriel, je me permets de dire, et puis Abdespedia, je pense, va se reconnaître dans toi aussi. C'est les tontons ou les grands-pères qui vivent dans les foyers.
Ouais.
Et qu'on est château au pays.
Oui, c'est vrai. Oui.
Je me suis toujours posé cette question. Je me suis dit, mais est-ce qu'il n'est pas mieux de vivre 2 mois dans un foyer au bled et 10 mois dans un château ici ou l'inverse?
Ah, en tout cas, il y a beaucoup de Maliens dans ces cas-là.
Et voilà, il y a beaucoup d'immigrés, hein, Abdespedia.
Ouais, ouais, ouais.
Hein, dans le foyer à Ralis, foyer sur la Cotra.
Mais tu sais pourquoi ils sont là?
Non.
C'est par rapport à leur retraite.
D'accord.
Oui. C'est en fait, comme c'est des retraites assez particulières, s'ils ne prouvent pas leur présence en France tous les mois, voire tous les 15 jours pour certains, ils ne peuvent pas toucher leur retraite.
Voilà.
Ok, donc il faut qu'ils aillent pointer pour pouvoir avoir leur truc. Mmh. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles...
Ils sont obligés.
Leurs enfants auraient dû se battre quand même. Hein.
Eh ouais.
Oui.
D'accord. Donc c'est par rapport à ça que je fais le lien avec ce qu'on est en train de dire. Si le lien, vous me direz, il y a des communautés, que ce soit arméniennes ou juives, où les gens ils coupent pas le lien avec Israël, coupent pas le lien avec Arménie, ça choque personne. Hein.
Oui. En fait, je trouve que ma génération, en fait, il y a la génération un peu plus, même les générations juste avant nous, il y a moins cette tendance-là en fait. Et on n'a pas de pays. Enfin, je peux pas dire qu'on n'a pas de pays, mais il n'y a pas un pays qu'on met au-dessus de l'autre.
D'accord.
C'est
donc
plus
au final,
les intérêts qu'on met là où se trouve vraiment donc, notre intérêt, c'est là où on met.
Au final, certains hommes politiques ont raison en disant que vous n'êtes pas gaulois.
Mais ça veut dire quoi être gaulois?
Non, voilà, mais
je suis un peu
provocateur parce que quand on tient un discours comme ça en pleine campagne électorale, il y a une partie de la France, une partie politique française qui dit mais écoutez, la jeune fille, elle est ni de là-bas ni d'ici, elle ne met pas un pays au-dessus de l'autre, donc finalement elle n'est pas gauloise, finalement sa place ici n'existe pas.
Bah, si, ça,
ce pays, tu l'aimes ou tu le quittes, quoi.
Mais cette personne n'a pas été réélue.
Abdespedia, la passion, s'il te plaît.
Disons que, je pense qu'on peut le comparer, pour moi, on peut comparer ça à avoir un père et une mère.
Une père et une mère, d'accord. Les Noirs américains ne sont pas du tout dans cet état d'esprit. Hein.
Mais ça, on parle des Noirs américains.
Oui, mais ils ne sont pas dans cet état d'esprit, ils sont américains. Moi, j'ai toujours le souvenir de Bruno Marie-Rose qui me disait, quand il se retrouvait dans les meetings, lui, les Martiniquais, avec les Américains, ils allaient vers eux, ils disaient « non ». I'm US, US. No.
Non, mais parce qu'on va dire aussi, il y a un truc particulier dans la constitution américaine qui est qu'une fois que tu as la nationalité américaine, bah, tu n'as pas normalement.
Tu n'as pas double nationalité.
Voilà, toutes les autres nationalités sont mortes. En France, tu as la nationalité.
Moi, je t'ai coupé la parole, vas-y. Hein.
Non, mais ce que je voulais dire, c'est un peu une boutade, hein. C'est que cette personne qui parlait des Gaulois n'a pas été réélue, tout simplement.
Donc, oui.
Son discours n'est pas.
Ses idées sont bien dans la communauté. Voilà. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que c'est un débat qui, moi, avec réflexion, hein, qui me tient à cœur, mm-hmm. parce que je trouve que à partir du moment où on n'est pas bien posé quelque part, on n'y pose pas ses valises. Donc dans sa construction, on ne sait pas où on est. Et c'est ce qui s'est passé pour beaucoup de nos grands frères et beaucoup de parmi nos générations. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils ne posent pas leurs valises. C'est-à-dire qu'ils disent, oh, un jour ou l'autre, je vais retourner. Un jour ou l'autre, je vais retourner. Un jour, on est dans 30 ans. Ah, ça fait 30 ans que je ne suis pas retourné. Non, t'inquiète. Quand le gouvernement va changer, j'ai ma place. 40 ans. T'inquiète. Ah, après, le gars, il est à la maison de retraite.
Non, ma génération, elle est différente.
Je ne suis pas convaincu.
Non, mais ma génération, elle n'est pas...
Aminata, beaucoup de nous, aujourd'hui, disent ça. Mais quand on sera à la retraite, on ne sait pas.
Oui, ça, c'est sûr. Mais il y a beaucoup de jeunes, aujourd'hui, ils savent où se trouvent, là où ils vont passer. Enfin, ils ont un endroit, forcément, où ils sont installés, mais ils ont leurs affaires aussi.
Ces histoires.
C'est là aussi le truc.
Affaires.
Il y a certains qui ont leurs affaires dans un pays différent.
Aminata.
De là où ils sont.
Mes cheveux blancs. Écoute, mes cheveux blancs, moi j'ai fait des affaires là-bas. On se connaît. Les affaires, quand on n'est pas sur place, on se fait avoir. Il n'y a pas d'affaires où on fait à distance et puis tout se gère sur Facebook.
Non, mais il y a des gens qui ont deux appartements. Une en Afrique, dans un pays.
Oui, mais ça existe, oui, je suis d'accord.
Ici. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a de plus en plus, en fait, de personnes mais tous de ma ces génération gens qui ont ça.
Ces gens qui font cette. Ils sont en train de vous mettre dans une situation difficile.
Ça, c'est sûr.
Dans la mesure où on va nous ramener le mot intégration. Mais... Quelqu'un qui est sur deux pays, il est intégré où? Ses enfants vont à l'école où? Les luttes contre la discrimination, il les fait où?
Dans la mer.
Voilà, on fait deux.
Mais parce que pour vous, tout ça, c'est des questions existentielles.
C'est pas des questions. Attends, elle va terminer. Parce que là, elle entend de rentrer dans le philosophique, là.
Oui, ouais, c'est ce que j'allais dire.
Ça, c'est des questions existentielles que vous voyez aujourd'hui, que peut-être vous vivez ça. Mais pour nous, c'est comme quand tout à l'heure, je voyais une image où il y a une personne, un adulte qui demandait à un enfant. Est-ce que dans ta classe, il y a des étrangers? Et l'enfant lui répond, dans ma classe, dans ma classe, il y a que des enfants. Tu vois? Nous, c'est un peu la même chose. C'est pas, en fait, on se voit entre nous comme des êtres humains et qui ont plusieurs, en fait, qui ont des valises, qui ont des
Aminata,
expériences, qui ont
Disneyland, ça marche la vallée.
Ah là là.
Tu vas faire une demande d'embauche, tu vas envoyer tous tes CV. Oui. Il y a des CV qu'on va déchirer parce que tu as dit une certaine couleur et puis des CV qui vont passer parce qu'ils ont d'une autre couleur. Non, vous êtes tous nés ensemble.
Même le nom seulement.
Le nom. Et donc ça, comme toi, tu es en deux pays, si tu veux aller dans l'autre pays où on va te dire non, comme toi, tu es né en France, tu es du France, on va te dire non. Donc, tu es entre les deux chaises. Moi, c'est un conseil que je donne aux gens qui m'écoutent. À un moment donné, il faut s'installer dans l'endroit où on est le mieux. Aller en vacances dans le pays d'origine, why not? Mais avoir comme projet de dire je vais y retourner, c'est fuir la réalité.
Ah, mais là, c'est pas comme projet, je vais y retourner. C'est que tu as ton projet déjà là-bas.
Non, mais voilà. Ça, il faut vraiment avoir le projet. Il faut bien le calculer.
Ah, mais oui.
Non, voilà. Mais Christophe.
Oui.
Si tu as le projet d'y retourner, mais que tu construis ici en même temps.
Why not? Pourquoi pas?
Tout est bénef.
Ouais.
Mais c'est dans ce sens-là que je parlais. Hein.
Ouais, mais ceux qui vivent dans l'hypothétique retour.
Voilà.
Mais qui construisent rien. Qui sont...
qui attendent qu'on les nomme ministre qui,
non, mais même pas. Qui sont nourris, blanchis, logés ici aux frais du contribuable et qui te disent « Moi, je vais retourner. » Et en même temps, derrière, où tu as leurs enfants qui vont te dire « j'emmerde, excuse-moi, la France et compagnie. » Là, non. Là, tu vois, là, je suis d'accord. Là, c'est quoi? C'est quelle vie, en fait?
Oui. Mmh.
C'est ça, le truc.
Tu vis quoi, en fait? T'es là, t'es pas là, t'es un fantôme. T'es...
Exactement. C'est et ça, tous les combats qui sont à mener pour la dignité de l'être humain, que les Noirs américains ont mené avec les droits civiques, on est loin de les mener parce qu'on a, il y a une part d'explication dedans de ce que vient de me dire Aminata. Je comprends maintenant pourquoi est-ce que ces combats ne sont pas menés jusqu'au bout. Parce que dans la tête de beaucoup de gens, ils sont là de passage. Donc le fait d'être de passage, ne pas être vraiment posé quelque part, ça fait que on ne milite pas assez, on ne s'engage pas. D'ailleurs, on rappelle pour ceux éventuellement qui veulent s'inscrire qu'on a jusqu'au 31 décembre pour s'inscrire minuit, parce que l'année prochaine il y a deux grandes élections en place. Il y a l'élection présidentielle à deux tours et les législatives qui suivent juste derrière au 1er janvier. Ça sera trop tard, et quand au mois d'avril on verra le résultat du premier tour de l'élection présidentielle, faudra pas venir nous dire faut qu'on manifeste, faut qu'on fasse ci, faut qu'on fasse ça. Comme c'est les Américains qui sont pas allés voter aujourd'hui, ils disent non, bah, pourquoi Donald Trump est élu. Et oui, il faut prendre la disposition avant. Si on est démocrate, on assume après le résultat du vote. Donc vous avez jusqu'au 31 décembre, et vous pouvez aller, si vous habitez Lyon ou certaines communes, vous pouvez aller sur le site de la ville pour vérifier si vous êtes bel et bien inscrit. Et je rappelle que si vous avez déménagé, votre droit de vote ne vous suit pas. C'est-à-dire que quand on va vous envoyer votre nouvelle carte d'électeur, si elle arrive avec votre domicile que sa mère n'habite pas à l'adresse indiquée, ça repart et vous êtes rayé des listes électorales. Mmh. Combien de personnes avons-nous vu comme ça de bonne foi qui arrivent avec leur carte d'électeur, leur carte d'identité pour voter? Quand on leur dit qu'elles n'ont pas le droit de voter, elles disent
puisqu'elles sont pas atteintes
à la démocratie parce qu'elles ne sont pas inscrites. On va quand même sur le Premier ministre, des interviews très intéressantes, hein, la preuve on en parle, hein, félicitations ami. C'est que elle lui a posé une question quand même assez piège quand elle lui a dit qu'est-ce que vous appelez la communauté internationale à Despedia, comme si on avait fait exprès, ça retient, je vois le premier écho des maquis.
T'as vu ça?
Il était assez en difficulté. Parce que le premier mot qu'il a dit, c'est la France.
Il a eu la tête, enfin,
tu l'as vu en direct.
Il faut dire que cette interview était assez, enfin ça m'a touchée aussi, c'était assez drôle parce que tous les deux en fait il y avait une certaine lutte, on va dire, d'essayer de prendre le dessus
sur l'autre.
L'un sur l'autre. Et dès le départ en fait il a essayé de me désarmer dès le départ avec le regard et tout, c'était, il me souriait avant qu'on parle de l'interview, et dès qu'on a commencé à parler de l'interview, là c'était plus du tout le sourire, c'était
il a repris la posture de premier ministre.
Là on a senti l'homme politique, parce que quand on lui a posé la question sur la communauté internationale, il a dit la France, les États-Unis,
il a dit les
partenaires de la France, les partenaires du Mali comme la communauté internationale. De qui parlez-vous exactement?
C'est ça.
Et là, elle a vraiment, enfin, entre guillemets, piégé parce qu'il était en difficulté. Après, il a rebondi sur le Nigeria, l'Algérie, essayer de trouver un peu les partenaires.
Voilà, l'Algérie, on a tous compris. Après, il a dit le Maroc, qui a investi énormément au Mali, etc. Il a vraiment essayé de broder.
On a compris de quelle communauté internationale il parlait. Très, très bien, Aminata. On fait une virgule musicale et puis on fait une escale au Mali à nouveau. C'est sur l'Union Européenne. Hein, et puis, on poursuit. Et puis, on ira peut-être parler de celui qui a fait venir sa femme du pays, il regrette maintenant. Ben, voilà, on vous dit, installez-vous dans un pays. Il y a plein de jolies femmes ici. Vous allez encore les juger au pays. 04 78 21 05 95. Vous pouvez nous contacter. On est là sur Maquis Pluriel, l'émission la plus tendance, la plus ambiancée, qui, dans ce froid de canard, vous réchauffe. Si tu regardes ta télé et que tu écoutes Maquis Pluriel, que tu es toute seule, la télé te regarde. Tu regardes la télé. Ça va être chaud, les fêtes de fin d'année. Aminata, on est ensemble.
Êtres chers sans cesser mais pour la vie, unis par leur volonté, par les sentiments en commun, simplement réunis, et on craint rien, enfin c'est ce qu'on dit, mais pas toujours ce qu'on voit. J'ai demandé pourquoi, on m'a répondu c'est la vie, puis-je donner mon avis, faut que je reste en dehors de ça, quand l'amour se transforme en haine et qu'on se déchire devant moi, voilà ce qu'il en est, et ce n'est pas autrement qu'on prend tant d'engouement pour l'histoire de mes tourments. Le temps évolue, j'ai fait face aux soucis, j'ai grandi, maman est là, mais papa est parti, et là j'ai compris, t'as préféré tourner la page, j'étais pas du voyage, dire que je te croyais au paradis. Vu que l'alcool fait des ravages, tu t'es pas rattrapé, et sans même te retourner, je t'ai vu t'éloigner du rivage. Est-ce dû à ta vie merdique? J'en sais trop rien, devenu alcoolique, et tu fais du mal au tien. Combien de fois tu l'as vexé? Combien de fois t'étais pas là? Combien de bleus sur ses bras? Car quand on aime, on compte pas.
Tu es parti, sans même que l'on ne puisse te dire au revoir. Au fond de mon cœur, tout est devenu si loin. Tu es parti, sans même que l'on ne puisse te dire au revoir. Au fond de mon cœur, il reste encore un espoir. Oh papa, si j'avais
savais plus, je t'aurais dit non, ne pars pas. J'étais trop petit pour comprendre, j'ai dû grandir sans toi. Même si maman s'est bien occupée de moi, il me manquait un repère, un père derrière moi. Je fermais les yeux et j'imaginais ton visage. J'avais juste que t'étais noir vu mon métissage. À l'école on me demandait ton papa il fait quoi. Les autres se marraient quand moi je ne répondais pas. Le jour où je suis tombé sur cette photo de mariage, le puzzle de ma vie a commencé son assemblage. J'ai enfin su à quoi tu ressemblais. Impossible d'expliquer l'effet que ça m'a fait. 1990, le téléphone sonne. Après l'orage, le soleil rayonne. Maman m'appelle, elle me dit quelqu'un veut parler. J'ai juste entendu allô, j'ai compris qui c'était. Quelques semaines plus tard, te voilà devant moi. Est-ce la réalité ou ce rêve que je fais à chaque fois? T'es resté 8 ans, puis t'es reparti. T'es retourné au pays.
Tu es parti, sans même que l'on ne puisse te dire au revoir. Au fond de mon cœur, tout est devenu si noir. Tu es parti, sans même que l'on ne puisse te dire au revoir. Au fond de mon cœur, il reste encore un espoir.
À la suite de ton départ, j'ai dû me faire une raison quand elle a dit au grand frère, maintenant t'es l'homme de la maison. Elle si fière, devenue la cause de mes souffrances. Devant nous, l'air de rien, mais qui pleurait en silence. J'aimerais plus t'en vouloir, à l'inverse de mon cœur, une rancœur intérieure. D'avoir juste un géniteur à toute personne délaissée, sans présence de daron, divorcé ou décédé, qu'on juste hérité d'un nom.
Oh papa, j'ai mis 4 ans pour effacer ma rancune. Un père on en a qu'un, une mère on en a qu'une. J'ai rangé ma fierté, je t'ai rejoint là-bas. Mon coulé quand tu m'as pris dans tes bras. Moi je t'ai retrouvé d'autres n'ont pas eu cette chance. Je leur dédie ce morceau et partage leur souffrance. Ceux victimes d'un abandon, d'un divorce ou d'un décès. Ceux qui vivent avec le cœur blessé.
Tu es parti sans même que l'on ne puisse te dire au revoir. Au fond du cœur, tout est devenu si loin. Tu es parti sans même que l'on ne puisse te dire au revoir. Au fond du cœur, parti sans même que l'on ne puisse te dire au revoir. Au fond du cœur, tout est devenu si loin. Tu es parti sans même que l'on ne puisse te dire au revoir. Au fond du cœur, il reste encore un espoir.
Vous êtes sur le vol 91.5 à destination de Radio Pluriel au terminal 04 78 21 05 95.
Retour sur le plateau de Maki Pluriel sur Radio Pluriel 91.5, numéro 1 sur la diversité en région lyonnaise, dans le Grand Lyonnais, Grand Lyon plus particulièrement. Abdespedia, tu nous as mis un titre et tu nous expliquais ça hors antenne.
Oui.
Qu'est-ce qui t'a inspiré un peu la programmation de ce titre ?
En fait, le titre en lui-même de la chanson, Sans repère.
Oui.
C'est-à-dire qu'on était en train de discuter de ceux, tu sais, qui ont leur tête là-bas et au pays et qui sont
qui ont la tête là-bas et les pieds ici.
Les pieds ici, voilà. Et on disait tout à l'heure, bah voilà, c'est des gens pour moi qui sont sans repère, qui se disent je vais vivre là-bas plus tard. Mais je construis rien ici, je construis rien là-bas.
Et au final, ils ont construit nulle part.
Voilà, ils ont construit nulle part.
Donc voilà.
C'était un petit clin d'œil par rapport au titre.
Ben, c'est très très fort à propos. Hein, Albiès Fidel est inspiré aujourd'hui, comme Ami était inspiré dans sa question lors de ses interviews. 04 78 21 05 95, c'est Maki Pluriel, l'émission la plus tendance de la bande FM. On revient sur l'écho des Maki que nous a trouvé Aminata. C'est sur l'Union Européenne qui a signé le premier accord avec un pays africain sur le retour des demandeurs d'asile. Oui. Depuis dimanche dernier, à Bamako, donc au Mali, c'est le premier accord du genre visant à lutter contre les causes profondes de la migration irrégulière et à favoriser le retour des migrants maliens depuis l'Europe. C'est la première fois que l'Union européenne établit des engagements aussi précis avec un pays africain à propos du retour des demandeurs d'asile refusés, a indiqué un communiqué du ministre néerlandais des Affaires étrangères qui a signé l'accord. Hi. Qu'est-ce que ça signifie ?
Ça signifie tout simplement, et d'abord avant de commencer, il faut préciser une chose. Pratiquement tous les médias internationaux l'ont dit.
Oui.
Pratiquement tous les médias français l'ont dit. Et pratiquement tous les médias africains l'ont dit.
Oui.
Mais le gouvernement malien persiste et insiste pour dire que...
Ils n'ont pas signé.
Ils ne l'ont pas signé. Aïe. Que c'est faux.
Donc eux-mêmes, ils signent. Et puis vis-à-vis de leur population, ils disent qu'ils n'ont pas signé.
Voilà. Donc hier, il y a eu une grande polémique sur les réseaux sociaux.
Oui.
Voilà. Entre ceux qui disent que ça a été signé, ça n'a pas été signé. Et il y a même des ambassadeurs qui sont intervenus dans des débats pour dire qu'ils
n'ont pas signé. Alors, ils ont signé ou pas?
Voilà.
Toi qui es journaliste.
Je pense que...
Tu penses qu'ils ont signé?
Oui, je pense quand même.
Ah ouais?
Étant donné que quand même, il y a le forum de... l'association malienne qui s'occupe des personnes donc qui sont refoulées, des personnes...
Oui, les demandeurs d'asile.
Voilà, les demandeurs d'asile, etc. En fait, toutes les personnes qui sont sorties du Mali et qui ont des problèmes, voilà. Donc, et cette association-là l'a confirmé aussi. Donc, je pense qu'à un moment donné, il va falloir que le gouvernement malien prenne
assume ses responsabilités. Alors, est-ce que tu peux... Parce que je me mets à la place des auditeurs. Je me mets à leur place. Quel est l'intérêt de signer ce type d'accord? Parce que là, on me parle d'un accord avec 1,8 milliard d'euros pour endiguer le flux des migrants. C'est une affaire d'argent ou qu'est-ce qu'il y a d'autre?
Disons que apparemment, bon, dans des raisons officieuses,
ouais.
C'est ça serait un moyen de permettre, enfin, on va dire, officiellement d'abord, ouais. C'est cet argent-là sera donné aux personnes qui vont être refoulées pour créer leur petite entreprise au Mali et ainsi pouvoir bénéficier, etc., de tout ce qu'il faut pour être dans des bonnes conditions.
Donc, si on résume bien, c'est une manière de leur donner un peu d'argent.
Voilà.
Comme ça, quand ils arrivent au pays, ils ont un petit pécule pour monter leur petite affaire, leur petit commerce ou leur petit business.
Donc, voilà comment le peuple malien aussi, enfin, certaines personnes répondent. Ils disent... Vraiment, si c'est pour refouler des personnes qui ont traversé l'océan, qui ont échappé au naufrage, au requin, au froid, etc., tout ce qu'il faut pour arriver en France et qu'ensuite, ce soit des petits policiers maliens qui les ramènent
chez eux.
Et contre un peu d'argent pour qu'ils puissent ouvrir leur entreprise une fois que tu vas arriver au Mali.
Ils disent tout ça pour ça, quoi.
Et voilà, cet argent-là, tu vas le prendre et tu vas aller l'amener à l'administration qui va
le bouffer.
Tu ne verras jamais ton truc. Tu vas encore repartir. Donc, ils disent que c'est vraiment...
C'est inutile.
Inutile.
Parce qu'actuellement... pour les reconduites à la frontière, je crois qu'ils ont augmenté la prime. Elle est passée à 2500 euros. Hein. C'est-à-dire quelqu'un qui voit son titre de séjour, son titre de demandeur d'asile non accepté, on lui propose de retourner dans un pays ou dans son pays. Bon, déjà dans son pays, pour quelqu'un qui demande l'asile, c'est un peu bizarre. On lui donne un pécule de 2500 euros. Donc là, dans cet accord, on donnerait plus alors.
Voilà, on lui donne plus.
Parce qu'ils disent que c'est pour lutter contre les réseaux de trafiquants d'êtres humains et améliorer le contrôle aux frontières. Neuf projets d'un montant de 145 millions d'euros ont été adoptés en ce sens.
Mais pour beaucoup de Maliens, c'est vraiment, vraiment une histoire encore géopolitique qui est liée à l'intervention de la France dans le Nord.
D'accord, donc c'est parce que la France est intervenue qu'il y a des demandeurs d'asile.
Non, c'est une moyen pour la France d'avoir encore plus la mainmise
sur le Mali.
Voilà.
Moi, je voulais rebondir sur cette question. Despedia, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter par rapport à ce retour des demandeurs d'asile et l'Union européenne, en fait, qui s'en débarrasse, quoi.
Ouais, non, mais c'est ça qui m'étonne, c'est que on veut vraiment fermer les vannes.
Voilà, on dirait, hein.
Et quoi qu'il en coûte, voilà. On est même prêt à payer pour qu'ils retournent chez eux, quoi.
Parce que le ministre néerlandais, donc, il doit être président de
L'Union européenne.
Voilà, ouais. Je crois que la Hollande doit être le pays président de l'Union européenne, donc c'est le ministre de l'Union européenne qui dit, dont le pays assumait la présidence de l'Union européenne en début d'année. Il dit, car c'est seulement avec ce genre de collaboration que nous pouvons prendre le problème de la migration à la racine. Les jeunes Maliens peuvent tant contribuer au futur de leur pays. Nous devons éviter que les Maliens en route pour l'Afrique du Nord ou l'Europe ne perdent pas la vie ou ne tombent pas entre la main des passeurs. Voilà, donc on donne l'argent pour qu'ils restent sur place, mais Amélie, elle n'y croit pas trop. Hein.
Moi, en tout cas, je me pose vraiment la question. Déjà, en fait, je me pose une question qui est totalement autre. C'est cet argent-là, est-ce que ça vient officiellement de l'Union européenne ou des deux camps? Ou tout simplement du Mali.
Alors, quels sont les deux camps?
Les deux camps, c'est le Mali et l'Union européenne.
L'Union européenne.
Voilà.
Mais là, à mon avis, ça devient de venir que de l'Union européenne, hein, parce que là, on parle de milliards d'euros.
L'impression quand même que ça va être
1,8, c'est ce que tu disais.
Ouais, 1,8 milliards dans le programme. Et là, il y a déjà 145 millions qui ont été débloqués pour des projets.
Moi, j'ai l'impression que ça va encore être, ça va rentrer dans la facture encore. Donc, ça veut dire que le Mali doit des dettes que le Mali doit
payer. Prendre. C'est-à-dire qu'un plus tard, les Maliens devront rembourser.
Ah, ça c'est clair.
Je crois que dans cette histoire, c'est qu'on arrive à la fin de la notion de demandeur d'asile, parce que comme il dit, c'était un moyen d'immigration irrégulière. Quand on a un pays qui est un peu en difficulté, dès qu'on arrive en France, on dit « je suis arrivé en France, mon pays est en difficulté, donc est-ce que je peux demander l'asile ?» Et ils ont tellement croisé les fichiers aujourd'hui qu'énormément de personnes se font refouler, se font refuser le droit d'asile parce qu'ils comparent les fichiers, ils voient comment les gens se sont comportés, ils vont même capture Facebook pour voir, vous êtes demandeur d'asile, mais vous communiquez quand même avec le pays, vous y allez, vous envoyez de l'argent. Donc finalement, les liens que vous avez sont pas des liens totalement d'asile, donc ils repoussent cela.
Mais honnêtement,
oui,
sans nous voiler la face, des personnes qui partent comme ça irrégulièrement du Mali,
oui,
arrivés au Mali, vous pensez qu'est-ce qui va leur arriver? C'est des gens qui vont faire un petit séjour en prison.
Oui, pas obligatoirement, ils rentrent dans leur pays, hein, normalement, hein, normal. Ils sont pas expulsés, hein. Je pense qu'on doit les accompagner en disant vous rentrez chez vous.
Ah ben maintenant je pense avant on parlait de refoulement, on parlait de beaucoup de choses, mais maintenant je pense qu'il y aura même pas besoin de refoulement.
C'est-à-dire qu'on leur donne l'argent. Et tu sais maintenant à Despedia, c'est qu'est-ce que les gens faisaient, c'est qu'ils y allaient, ils prenaient l'argent et puis ils revenaient avec d'autres papiers.
Oui,
mais voilà, c'est ça.
Alors maintenant avec les empreintes digitales, c'est fini. Hein.
Les Roms le faisaient très souvent.
Maintenant c'est fini.
Mais les Roms c'était des grands voyageurs.
Ils allaient et puis revenaient.
Voilà, ils partaient, ils retournaient en Roumanie ou dans les pays Balkans, et deux semaines après tu les voyais revenir avec une autre identité, la même personne qui reprenait l'argent et qui repartait.
Ils revenaient deux ou trois fois. Mais maintenant avec les empreintes digitales, il paraît qu'ils reconnaissent tout de suite, hein. Vous mettez sur la main, votre photo elle sort, parce que c'est le pays où vous êtes enregistré en premier. Dans toute l'Union européenne, vous avez le fichier qui est transmis. Oui, Aminata.
Moi, je pense que pour le moment, il n'y a absolument rien du tout qui arrive. Enfin, que l'être humain a créé, que l'être humain n'a pas encore réussi à détourner. Enfin, l'être humain n'arrivera pas à détourner.
Aujourd'hui, moi, j'ai des informations, j'ai des amis. Aujourd'hui, quand vous arrivez dans un pays européen, une fois que vous êtes enregistré en demandeur d'Aldi, qu'ils ont pris vos 10 droits d'identité, quel que soit le pays européen où vous allez, vous mettez votre doigt. Et tout le fichier que vous avez demandé sort. Et même l'heure et le jour auquel vous êtes sorti des pays. Enfin, moi je parle de la Côte d'Ivoire. Le jour et l'heure où vous êtes sorti du territoire, c'est marqué. On est dans du biométrique, hein.
Oui, je suis d'accord. J'ai dit tout simplement qu'il ne faut pas s'arrêter là. Parce que c'est sûr et certain que dans quelques années.
Le biométrique, on en a parlé la dernière fois. C'est comme l'histoire des tests de paternité, hein. C'est qu'on a des trucs qui sont infaillibles. Là, le test ADN. Aujourd'hui, quand on fait que les gens commettent des crimes, sur la salive qu'on arrive à détecter l'ADN, on a 99% de chance. Hein. Donc voilà. Aujourd'hui, on va arriver.
Tu sais que dans certains pays, il n'est pas reconnu. Hein.
Il n'est pas reconnu. Hein.
Devant la justice.
Hein. En tout cas, quand on regarde les experts et esprits criminels, eux, ils arrêtent jamais ça. Hein.
Non, mais
Il faut pas se voiler la face que l'être humain est quand même assez ingénieux.
Ils vont être ingénieux là. Moi, j'aurais souhaité que tu dises, ne nous voilons pas la face. Le Mali va s'en sortir, va devenir une puissance économique où il n'y aura pas d'immigrés.
Mais
quand tu me dis que les Ivoiriens sont ingénieux, ça veut dire que c'est pour rester dans cette situation et vouloir toujours.
Les personnes qui vont être refoulées tout de suite, il faut arrêter de croire que ces personnes-là, en rentrant au Mali, ils vont se dire, ah tiens, effectivement, je vais m'ouvrir mon petit entreprise. Là, c'est pas du tout leur état d'esprit.
Leur état d'esprit, c'est là-dessus que moi, je voulais conclure. Actuellement, en Algérie, il y a une grosse polémique. Il y a des Maliens, des Mauritaniens qu'on a parqués dans le sud, qu'on a raflés dans l'Algérie, qu'on a parqués dans le sud et qui sont en train d'être rapatriés.
Oui.
Quand on voit les bateaux qui traversent les pirogues et le nombre de morts que ça fait, moi, le grand coup de gueule que j'ai envie de poser, c'est vis-à-vis des chefs d'État africains, des dirigeants africains. Comment peut-on laisser ces populations aller dans ces conditions de misère? Moi, je sais pas. J'interdirais cela, ou je sais pas, dès qu'il y a des gens qui arrivent en Europe ici, j'emmènerai un avion pour qu'on les récupère et qu'on les ramène, et je trouverai les conditions et j'éviterai que,
voilà.
Parce que c'est franchement, moi je sais pas, ils peuvent pas dormir les deux oreilles tranquilles en voyant leur jeunesse traverser tout le continent pour venir se chercher ici.
Bah, franchement, pour le Mali, Je pense exactement comme toi. Je pense que la solution n'est pas forcément de toujours fuir. À un moment donné, il faut agir.
Il faut rester sur place.
Voilà, il faut agir sur place. On n'a pas besoin peut-être d'arriver jusqu'en Europe pour pouvoir trouver son bonheur en Afrique. Mais après,
mais ouais, mais quand on est vraiment dans la misère, on n'a pas le choix et puis les gens viennent.
Pour ça, oui, quand on regarde vraiment, je pense que pour un Africain, il est beaucoup plus facile. Pour un Malien, par exemple, il sera beaucoup plus facile de partir en Côte d'Ivoire
ou
de
côté,
partir
quoi.
En Ghana, au Ghana, ou je sais
traverser
pas,
que de traverser. Le Sahel.
Voilà, j'ai eu des personnes avec qui j'ai parlé l'année dernière quand il y a eu le bateau qui a fait le plus de morts avec les migrants. Mais il y a des personnes, en fait, il est impossible de leur parler.
Ils n'y croient pas.
Ils sont déjà, en fait, dans l'état où eux, ils sont déjà morts, en fait.
Ils sont déjà morts.
Ils sont déjà morts, en fait.
Comme les gens disent, cabri mort n'a pas peur de couteau.
Mais c'était quel homme politique français, je me souviens plus, qui avait dit et qui avait fait en sorte que l'Union européenne et la France envoient de l'argent aux pays africains.
C'était Brice Hortefeux. C'était le ministère de l'identité nationale et du co-développement.
Voilà, pour développer les pays africains. Et
comme dit Ami, après c'est pas où l'argent est passé, hein.
Ah non, mais l'argent n'est jamais arrivé. Hein.
Voilà.
Mais donc oui.
L'argent, non, mais
ça parle de bonnes intentions.
Non, mais c'est même pas qu'il a même pas encore été versé par l'Union européenne.
Voilà. Donc là, il y a 1,8 milliard. Il y a des gens qui doivent être en train de se sucrer.
Moi, je dis tout simplement qu'il faut qu'il y ait un truc que les politiques, même si les politiques n'ont pas l'intelligence, les capacités ou je sais pas. Ils n'y pensent même pas, même si les politiques n'ont pas cette pensée-là, que la population elle-même puisse mettre un peu de valeur sur sa vie.
Tout à fait. Moi, je suis d'accord là.
Elle-même, en fait, elle se bouge pour faire quelque chose et n'est pas toujours être là en disant « Ah, je vais faire ça, mais de toute façon ».
Voilà. Moi, j'ai un ami sénégalais qui me disait que dans des quartiers de Dakar, dans chaque famille, il y a un cousin, un neveu ou un frère qui est mort en tentant l'aventure par le bateau.
C'est pareil au Mali.
Donc ils savent tous quand même qu'en ayant perdu un proche, que ce n'est pas si facile que ça. Il paraît que sur un bateau, il y a toujours au moins 1000 personnes qui décèdent. Et les conditions avant de prendre le bateau, il paraît qu'elles sont exécrables.
Ah oui, avec les passeurs, c'est...
C'est terrible. Ça coûte cher et ils sont maltraités, comme voilà. Voire torturés.
Mais moi, j'avais vu un reportage où, par exemple, sur les côtes marocaines, quand ils étaient mis dans les bateaux, t'avais le gars qui les emmenait au large. Il y en avait un autre qui venait le récupérer et hop, démerdez-vous.
C'est-à-dire
qu'il n'y a plus personne qui commande le bateau. T'as 600, 700 personnes sur le bateau, voire ça c'est quand c'est des petites embarcations, et quand c'est des grandes c'est autour de 5000, 6000 personnes. Et il n'y a plus personne, qui commande le bateau.
Ils sont le bateau, ça va comme ça.
Ah, le bateau s'en va comme ça.
C'est-à-dire que ceux qui s'en sortent là, ils sont vraiment bénis des dieux.
Oui. Hein,
parce que les conditions sont vraiment dramatiques.
Ah oui, mais c'est ça.
Et c'est pas comme si c'était tout. Hein. Une fois que t'arrives aussi, ça c'est une chose. Et apparemment, il y a même des bateaux gonflables. Il y a certains qui rentrent sur des bateaux gonflables.
Là, t'as 200, 300 personnes sur un bateau gonflable qui prendrait une quarantaine de personnes. Hein.
C'est terrible. On parlait de la Syrie à l'instant. Là, on parle de ces conditions terribles de traversée de la Méditerranée. Des gens qui traversent le désert pour venir trouver des conditions meilleures de vie ici. Enfin, on a une grande pensée pour eux. Et puis quand on voit le froid qu'il fait ici, finalement, on se demande si c'est bien. On voulait aborder le dernier thème des échos des maquis, mais je crois qu'on va se le garder pour la semaine prochaine. C'est le gars qui a fait venir sa go du pays, s'il savait. On dit c'est la triste histoire qui est arrivée à un noir africain installé en France depuis plusieurs années, venu ici pour se chercher. Comme on dit communément, sa vie s'est stabilisée grâce à un travail correctement rémunéré, mais il lui manquait l'épouse nécessaire à son épanouissement d'homme. Quand ses copains lui disaient qu'il pouvait trouver son bonheur avec ses sœurs vivant en France, il leur répondait que les Bounty, c'est comme ça qu'il les appelle, peau noire, esprit blanc, ne l'intéressaient pas. Son ambition était de faire venir une femme du pays, bien ancrée dans les traditions et capable de perpétuer sa culture. Ainsi donc, notre candidat au bonheur entreprit les démarches afin de trouver la dulcinée de son cœur. La suite, la semaine prochaine, on vous laisse saliver. Imaginez-vous ce qui va se passer pour celui qui va chercher sa dulcinée au pays alors qu'il préfère, il aurait pu avoir une femme d'ici. Il dit que non, c'est une Bounty. Vous savez pourquoi souvent les gens disent Bounty? Parce qu'elle revendique ses droits.
Voilà.
La petite, elle revendique ses droits. Le gars dit, j'allais prendre une femme du pays. Déjà, quand elle arrive, elle sera soumise. Moi, elles ne sont pas de la maison. Les courses, on va faire ensemble. Je lui donne 20 euros de ça. Ah, ça, c'est au début.
Ça, c'est même pas revendiqué. Il y a certains, c'est même pas que tu revendiques tes droits. Hein. C'est le simple fait de dire que tu existes, en fait.
Ils aiment pas, hein.
T'existes sans.
Donc, lui, il allait chercher la femme au pays. S'il savait, on en parle la semaine prochaine. Commencer le débat sur Maki Pluriel, sur Facebook ou sur Twitter. Je pense que beaucoup de personnes vont se reconnaître dedans. Alors, on précise, hein, c'est un mec qui allait chercher une femme, mais ça peut être toi aussi, hein, qui va chercher un homme.
Oui, hein, c'est... ça existe en plus, hein. Il y en a plein comme ça.
Il y en a
ça.
Plein qui vont chercher un homme, hein. Dis-moi, je vais aller chercher mon gars au pays, hein. Quand il sera là, hein, au moins je serai bien. Mais le gars qui quitte le pays là, lui, il a ses objectifs. Oui. La suite, la semaine prochaine. Ah, bien, Spedia, tu as tenu quand même, hein, parce que tu étais fortement malade. Mmh. On t'a entendu tousser, et là,
bah, depuis tout à l'heure, j'arrête pas de couper le micro.
Heureusement, hein. Tu coupes le micro, hein. La technique est forte.
Hein.
On passe un petit coucou au futur candidat du rallye Alissa qui aura lieu du 27 décembre au 2 janvier. Il y aura Choco qui y sera, qui nous amènera des reportages. On espère que ça se passera très bien. Nous, on va garder la maison Maki Pluriel
au chaud,
hein. On sera là. On sera tous en forme. Spedia, tu voyages?
Je sais pas encore.
Tu sais pas encore, t'as vu, les gens perdent, ça dit qu'il a tellement le choix,
voilà.
Qu'il sait pas.
Je suis dans son cas.
Tu es dans son cas aussi, je n'ai pas le choix. Moi je suis là, hein, je garderai la maison. 04 78 21 05 95. C'était Maki Pluriel de ce mardi. J'espère que vous avez passé un bon moment, qu'on vous a réchauffé, qu'on a bien rigolé. Et puis même si on a abordé des sujets tristes, la vie n'est pas forcément toujours rose.
Non.
On est ensemble.
On est ensemble, bonne soirée.
Na songa ka bébé na berso, elle est la femme de ma vie. La personne qu'il me faut.
Loketo pété,
maman est
loketo pété. Loketo pété,
maman est
loketo pété. Loketo pété,
maman est
loketo pété. Loketo pété,
maman est loketo pété.
Allez dans un son, pour la son, paye la son, pour la son. Allez dans un son, pour la son, paye la son, pour la son.
Mon orange. Pour ma belle, quand elle reviendra, je la lui donnerai pour qu'elle sache à quel point je l'aime. Chérie, si ma kangaïen, ici kanalinaka, na bakalenaïe, na zonga ka bébé na berceau, elle est la femme de ma vie, la personne qu'il me faut.
Loketo pété,
Adeline,
loketo pété, loketo pété,
on est ma.
Angola, Zimbabwe, danza. Allez, Tunisia, Bina, la France, Bina.
Rendez-vous chez Mère Vérona Saint-Ouen.
Et la poussa nina ngaye. Bimi katuko mama. Bili mouka ma papa. Você pelissa ngaye, você pelissa ngaye, você pelissa ngaye.
Lilian Castelo,
loketo pete,
Fatou Benissé,
loketo pete,
Lorette Compressa,
Papa Majo, Ali Yukalogi, mon bébé,
Alula Sentiment,
Yukalogi,
mon
amour,
Alula Sentiment,
Bongo Papa Naba.
Allez la caca, na boutou à l'oula ya mou.